Montrer l'exemple n'est pas la meilleure façon de convaincre, paraît-il. C'est la seule. Alors, c'est pas de moi, mais ça illustre bien le propos d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait qu'une personne pourrait être un bon responsable d'église ? Oui, on y revient. C'est la troisième prédication sur ce thème et ça sera la dernière. Qu'est-ce qui fait que toi-même, tu pourrais être un bon responsable ? Ou peut-être même plus largement, plus simplement, un bon chrétien ? Paul, en 1 Timothée 3, expose plusieurs critères. On en a déjà vu quelques-uns. On va en voir aujourd'hui trois autres. Et comme on dit sur Internet, le troisième va te surprendre. On dit ça, comme ça tu écoutes jusqu'au troisième. Mais on va commencer par le premier. Et il y a déjà matière à réfléchir. Avant ça, on va prier et puis on ouvrira nos Bibles en 1 Timothée 3. Seigneur, tu nous fais du bien par ta parole. Tu nous fais du bien parce que ta parole est créatrice. Par ta parole, tu as créé le monde. Par ta parole, tu as mis de l'ordre dans le chaos. Et par ta parole, tu mets aussi de l'ordre dans le chaos de nos propres vies. Seigneur, nous te remercions parce que nous ne sommes pas comme des brebis sans berger. Tu as envoyé ton Fils, Seigneur, qui est la parole incarnée, Seigneur. Et en tournant nos regards vers lui, en le suivant, en écoutant ce qu'il nous dit, Seigneur, eh bien tu ouvres un chemin devant nos pas, un chemin qui mène jusqu'à toi, en fait, le chemin qui mène jusqu'à toi. Seigneur, cette parole, nous voulons l'accueillir dignement. Nous voulons l'accueillir pour ce qu'elle est. Et elle n'est pas un vieux livre poussiéreux, elle est ta parole vivante qui vient transformer nos cœurs. Nous te prions qu'il en soit encore ainsi pour nous-mêmes ce matin. Amen. Alors, on va retourner 1 Timothée 3. C'est donc dans le Nouveau Testament, après les lettres aux églises. Voilà, 1 Timothée 3. Et je vais relire les versets 1 à 7. Si quelqu'un aspire à la charge d'épiscope, il désire une belle œuvre. Il faut donc que l'épiscope soit irrépréhensible, c'est-à-dire le responsable d'église soit irrépréhensible, qu'il soit homme d'une seule femme, qu'il soit sobre, pondéré, décent, hospitalier, apte à l'enseignement, qu'il ne soit pas adonné au vin ni violent, mais conciliant, pacifique, désintéressé. Qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission en toute dignité. En effet, si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu ? Que ce ne soit pas un nouveau converti, de peur qu'il ne soit aveuglé par l'orgueil et ne tombe dans le jugement du diable. Il faut aussi que ceux du dehors lui rendent un beau témoignage pour qu'il ne tombe pas dans le discrédit et dans les pièges du diable. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Alors, on a déjà bien abordé ce texte et je vous l'ai dit, c'est la dernière fois, on va clôturer cette fois-ci. On a déjà détaillé le terme d'épiscope, ce que voulait dire le fait qu'il soit irrépréhensible. On a abordé cette question qu'il doit être homme d'une seule femme. J'ai fait aussi un pack sur les termes sobre, pondéré et décent. J'ai déjà commenté la question de son bon témoignage vis-à-vis de ceux du dehors. Si vous avez raté tout ça, vous pouvez retrouver les prédications sur notre site internet. Je vais faire l'impasse sur ce qui me semble assez évident, bien que quand on creuse, on s'aperçoit qu'il y a toujours des surprises. Mais voilà, non adonné au vin, ni violent, mais conciliant, pacifique, désintéressé. Et je ne vais pas non plus parler du fait qu'il ne doit pas être un nouveau converti. Je pense que le texte est assez explicite. Je vous propose d'aborder les trois termes restants, et si vous ne les avez pas découverts par déduction, eh bien vous allez les découvrir maintenant. Le premier terme, c'est hospitalier. hospitalier. Au premier siècle, que ce soit chez les Grecs comme chez les Juifs, l'hospitalité, c'était un devoir. À l'époque, il n'y avait pas pléthore d'offres d'hébergement, Airbnb n'existait pas, et se loger quand on était itinérant, missionnaire par exemple, eh bien, ce n'était pas chose facile, sans même parler du risque réel de se faire dépouiller en dormant dehors. Alors, ne pas accueillir le voyageur de passage dans ces circonstances, dans ces conditions, ne pas prendre soin de lui, c'était vécu vraiment comme un déshonneur, comme un déshonneur. Alors, on pressent bien qu'être hospitalier dans ce contexte-là veut dire quelque chose de plus profond et de plus important que ouvrir sa porte aux frères et sœurs pour un bon barbecue un dimanche après-midi. Encore une fois, l'étude du terme grec vient apporter un éclairage intéressant. Ce terme, c'est philoxénos. Philoxénos. Philos, c'est celui qui aime, c'est l'ami. Le philosophe, c'est l'ami de la sagesse. La philosophie, c'est l'amour de la sagesse. Et xénos, c'est l'étranger. Vous avez ça dans xénophobe, par exemple, qui est la peur, phobos, qui a donné phobie, du xénos, l'étranger. Donc philoxénos, c'est être ami de l'étranger. Être hospitalier, c'est accueillir en ami celui qui nous est étranger. Pour un juif du 1er siècle, l'exercice ultime d'hospitalité, c'est d'accueillir le païen, le non-juif, comme ça nous est enseigné dans l'autre sens, dans la parabole du bon samaritain. Alors je vous laisse dérouler le fil de ce que cet accueil de l'étranger peut signifier de façon concrète dans le champ de l'action sociale, par exemple. Mais je voudrais toucher ici quelque chose qui nous touche, aborder ici quelque chose qui nous touche d'encore plus près. Je sais bien que ça ne saute pas aux yeux quand on se regarde les uns les autres, mais je voudrais vous dire qu'il y a parmi nous des étrangers. Il y a parmi nous des étrangers. Quand j'étais à l'église de Tours, il y avait une mixité ethnique qui était plus grande qu'ici. Je dirais qu'un bon tiers facile de l'église était composé de frères et sœurs d'origine africaine. Ce n'est pas le cas dans cette église. Néanmoins, pour beaucoup d'entre vous, vous vous connaissez littéralement depuis des dizaines d'années. Certains sont dans cette église depuis qu'ils sont nés, ce qui ne les empêche pas d'être à la retraite aujourd'hui. Et c'est absolument remarquable. C'est absolument remarquable parce que cette traversée des décennies, tous ensemble, avec ce que vous avez pu vivre de facile et de difficile, avec toutes les tensions surmontées et celles qui ont peut-être été moins bien surmontées, a quand même créé une histoire commune qui vous lie fortement les uns aux autres. Et ça, c'est sans nul doute l'une des grandes forces de cette Église. C'est ce qui lui donne sa stabilité, c'est ce qui lui a donné son identité patiemment construite année après année, c'est ce qui vous donne, ce fort sentiment d'appartenance que beaucoup d'entre vous éprouvent, c'est votre Église, vous êtes ici à la maison. Ça se voit quand on reste ici un peu la semaine, le nombre de gens qui passent et qui font ce qu'ils ont à faire. C'est la maison, quoi. Ils sont chez eux. Et puis surtout, cet amour fraternel qui peut être un amour vache parfois, mais qui est en tout cas un amour fidèle puisque vous êtes encore ici ensemble. Un amour fraternel donc qui se voit de loin et qui fait envie, qui fait vraiment envie. Et ça, ça c'est super, c'est vraiment une grande force. Le revers de la médaille, c'est que c'est pas si facile d'intégrer cette joyeuse troupe. Là je parle pas de moi, parce que moi et ma famille, en fait on est des grands privilégiés, le pasteur est un grand privilégié, il est attendu avant même d'avoir déménagé, l'église a envie de le découvrir parce qu'elle sait qu'elle va devoir le supporter quelque temps. Alors je peux vous dire que nous, pour qu'on ne s'intègre pas, il aurait vraiment fallu qu'on le fasse exprès, qu'on ne veuille pas, quoi. Mais je parle plutôt des nouveaux arrivants dont on ne sait rien au préalable. Ceux qui passent la porte, on ne sait pas d'où ils viennent, qui ils sont, qui viennent parfois d'autres églises, puis d'autres fois qui sont vraiment simplement envoyés par le Seigneur, qui a touché leur cœur et qui les a poussés à rejoindre une communauté, parfois pour la première fois de leur vie. Alors on soigne l'accueil. Et je crois que nous le faisons bien, mais ce n'est pas tellement sur le bonjour du dimanche matin que se joue l'amour de l'étranger, ni même sur l'invitation à manger. Je garde une mémoire vive de mes premières incursions dans une église évangélique. C'était il y a quoi, 16, 17, 18 ans, je ne sais plus, 19 ans peut-être, 19 ans. Et je sais que toutes ces choses que nous, on peut donner pour acquises, peuvent constituer chacune d'entre elles, littéralement, une révolution intérieure pour le jeune converti qui arrive tout juste. Le simple fait d'entendre des gens prier à haute voix, moi, me laissait sans voix. J'en revenais pas. J'avais l'impression d'accéder à l'intimité la plus intime de toutes les intimités. J'entendais des gens qui parlaient à Dieu, quoi. Des gens qui parlaient à Dieu. Alors, je ne vous dis pas l'effet que ça m'a fait la première fois que j'ai entendu quelqu'un prier pour moi. Quelqu'un qui demandait des choses à Dieu pour moi. Je me rappelle encore de l'endroit, je me rappelle comment j'étais assis, où était l'autre personne. Je me rappelle de tout, je me rappelle y compris de la prière. Il a dit au Seigneur, ne laisse jamais Laurent tranquille. Ben, c'est réussi. C'est réussi. La prière du juste est efficace. Voir des gens de tout niveau social, de tous âges, des gens pauvres, des gens riches, mais surtout des gens qui avaient l'air intelligents. Louer Dieu, tous ensemble, à plein poumon, chaque semaine, moi, ça m'émerveillait complètement. Je me disais, mais c'est fou, quoi. Il y avait des cadres de chez Michelin qui étaient là, et le lendemain, ils retournaient au boulot, dirigeaient leurs équipes, et le dimanche, ils louaient le Seigneur avec l'ouvrier, avec tous les frères et sœurs qui étaient là. Moi, j'en revenais pas. Même des choses encore plus simples, voir des familles manger à table ensemble et à heure fixe, ça m'éblouissait. Voir des couples heureux après 40 ans de vie commune me laissait stupéfait. Je me revois encore derrière un couple à l'église qui, pendant la louange, se tenait bras dessus, bras dessous. Est-ce qu'ils pouvaient imaginer ces deux-là, quel témoignage ils étaient pour moi ? Quelle merveille il y avait pour moi dans cette tendresse toute simple ? Je venais d'un autre monde. Rien de tout ça ne m'était familier et naturel. Alors évidemment, les nouveaux venus ont un effort à faire pour s'intégrer. C'est bon de venir, de fréquenter les lieux de rencontre, les repas fraternels, aller dans un groupe de maison, aller à la rencontre des uns et des autres. Mais nous pouvons aussi faire quelque chose pour eux. Premièrement, nous pouvons essayez de ne rien tenir pour acquis, absolument rien. Il est possible et même probable que beaucoup de ce qui nous semble tout à fait naturel leur semble à eux hyper bizarre. Peut-être agréablement bizarre, mais bizarre quand même. Et à l'inverse, nous devons leur faire sentir qu'ils sont les bienvenus tels qu'ils sont, avec toute la complexité et toute la richesse de leur histoire de vie. Ils n'ont peut-être pas les codes. Ils ne savent peut-être pas s'ils peuvent prendre le pain et le vin de la Sainte Cène. Ils ne savent peut-être pas quand est-ce qu'il faut se lever, quand est-ce qu'il faut s'asseoir. Ils n'ont peut-être jamais ouvert une Bible de leur vie. Et donc non, ils ne connaissent pas ce verset dont on dit, eh bien vous le connaissez tous. Et en fait, ça n'a strictement aucune importance. Aucune importance. Parce que le but de la vie chrétienne, ça n'est pas de faire rentrer les gens au pied de biche dans le monde évangélique. Jésus vient vous cueillir exactement là où vous êtes, pour vous amener là où lui, il est. Il n'y a pas deux parcours de vie identiques. La deuxième chose que nous pouvons faire, c'est d'être attentionné. Pas gentil, alors on peut être gentil aussi, mais attentionné, attentionné, volontairement attentionné. Parce que quand vous êtes dans l'église depuis longtemps, que vous avez une famille saine, que ce soit votre famille d'origine ou celle que vous avez construite, quand vous avez développé des amitiés, vous ne manquerez jamais de quelqu'un qui se préoccupe pour vous. Mais quand vous débarquez de nulle part, que vous êtes le seul chrétien de votre famille, pour peu qu'en plus vous soyez un petit peu introverti, que vous n'osiez pas trop aller vers les autres, vous pouvez vite vous retrouver sur la touche si personne, à un moment donné, ne décide de faire attention à vous. Quand je suis arrivé à l'église baptiste de Clermont-Ferrand, je peux vous dire que j'entrais pas dans le moule. J'avais les cheveux jusqu'au milieu du dos, j'avais des jeans troués, des vieux pulls achetés aux puces, des bonnes grosses chaussures de marche en hiver et des sandales en cuir en été. Et ça, c'était pour la partie émergée de l'iceberg. Mes d'attentives oreilles ont écouté mon histoire. Elles n'ont pas frémi quand je brisais les codes, et à force de m'aimer sans condition, de me faire grâce sur grâce, de m'inviter comme si j'étais leur fils ou leur frère, eh bien, ils m'ont fait sentir à la maison. Ça y est, moi aussi, j'étais à la maison. L'hospitalité. Que personne parmi nous ne se retrouve seul au milieu du village à passer la nuit dehors, tandis que les autres se sont organisés entre eux pour se réjouir ensemble. Et ça, c'est à chacun d'entre nous d'y être attentif. Et j'ajoute que on s'est aussi organisé pour ça. Nous ne voulons que personne ne soit écarté de quoi que ce soit, par exemple pour des questions financières. Nous sommes solidaires les uns les autres par le biais de notre association culturelle, l'ABEJ, qui est là pour ça. C'est sa vocation. Elle est là pour que nous puissions mettre tous nos biens en commun, comme nous y invite le livre des Actes, afin que personne parmi nous ne manque de rien, ni ne soit laissé sur la touche lors, par exemple, de sorties ou d'événements comme le Jesus Festival, qui aura lieu bientôt, ou bien le week-end d'église, qui aura lieu fin septembre. Alors, voilà, c'est aussi un appel au peuple. Hein. Si parmi vous, certains se sentent un peu à l'écart, eh bien ça existe et ça a été pensé pour vous, pour que vous ne soyez pas à l'écart. N'hésitez pas à venir solliciter, en parler. On est, voilà, c'est fait pour ça, en fait. C'est fait pour ça. Tous, à un moment donné, on est dans une situation où on a besoin. Et puis tous, à un moment donné, on est dans une situation où on peut donner. Et c'est ça, l'Église. Le deuxième terme que je vais aborder, qui n'a rien à voir, c'est apte à l'enseignement. Alors, je crois qu'il n'y a rien à commenter sur le fond. Par contre, il y a une remarque de forme et de taille, c'est que la capacité à enseigner est la seule aptitude pratique qui est demandée par Paul. C'est quand même remarquable. C'est-à-dire que pour une seule aptitude pratique, il aligne 13 qualités morales ou de caractère. Ça peut sembler anecdotique, mais à l'heure de discerner quelqu'un pour une responsabilité d'église, c'est en fait essentiel. Il y a des gens qui brillent merveilleusement par leurs aptitudes pratiques, vraiment, qui sont manifestement de super enseignants, qui ont clairement des talents de direction. Et alors, un peu éblouis par ces belles capacités, on les met en place, évidemment. Comment passer à côté de ça? Eh bien, ce n'est pas toujours une bonne idée. Pour une aptitude pratique, Paul aligne 13 qualités morales. Eh bien, je vous assure qu'il vaut mieux un piètre prédicateur, mais humble, respectueux des autorités en place, disponible pour apprendre, pour s'améliorer, prompt à la repentance, correct dans son attitude, doux avec les autres, qu'un magnifique prédicateur bien fondé bibliquement, calé sur l'herméneutique, incroyable sur l'homilétique, qui maîtrise le grec et l'hébreu, qui connaît sa Bible sur le bout des doigts, qui est capable de faire des références croisées entre l'Ancien et le Nouveau Testament de tête, mais qui est mu, par exemple, par un esprit de supériorité ou un esprit de contrôle ou encore par une soif de pouvoir. Le premier va apprendre et moyennant quelques efforts, il va peut-être devenir un bon prédicateur. Mais le deuxième va assassiner l'Église du haut de la chair. Pour une aptitude, 13 qualités morales. On ne met pas en responsabilité des gens qui sont capables. Dieu a appelé des gens qui étaient incapables. Moïse ne savait pas parler comme il faut, il n'arrivait pas à aligner trois phrases. Mais il l'a appelé, lui, parce que les gens appelés, Dieu les équipe. Et Dieu appelle les humbles et il humilie les orgueilleux. La troisième expression qu'on va aborder, c'est ce fameux « qu'il dirige bien sa propre maison ». Et le texte nous dit qu'il tienne ses enfants dans la soumission en toute dignité. L'argument avancé étant que celui qui ne sait pas diriger sa propre maison n'est pas qualifié pour diriger l'Église de Dieu. Tite 1, qui est le texte parallèle concernant les critères requis pour devenir responsable d'Église, va même plus loin au verset 6 en disant que le responsable doit avoir des enfants croyants. Des enfants croyants. Alors évidemment, ça pose plein de questions. D'abord, il y a un décalage culturel, parce que tenir ses enfants dans la soumission, en langage du 21e siècle, ça évoque tout de suite l'abus et l'autoritarisme. Ce n'est pas ce qui est préconisé ici. L'autorité parentale, c'est une autorité bienveillante. Si Éphésiens 6 dit effectivement aux enfants d'obéir à leurs parents et d'honorer leur père et leur mère afin d'être heureux sur la terre et de vivre longtemps sur la terre, il dit aussi au Père, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Et là encore, il y a un nouveau décalage culturel. Corriger, ça ne veut pas dire taper, ça ne veut pas dire frapper, ça veut dire éduquer, redresser l'erreur, prendre le bâton de berger pour montrer la route à suivre. Cela étant, il y a tout de même en arrière-plan ce rappel qui n'est pas toujours inutile que les parents ont un rôle de direction à assumer dans la famille. C'est bien à l'adulte de montrer la voie et non à l'enfant. C'est bien à l'adulte d'éduquer. C'est bien à l'adulte d'enseigner et à la fin de la journée, c'est bien à l'adulte de décider. Et ensuite, pour comprendre ce critère, on doit aussi considérer ce qu'était la famille antique. Le théologien Samuel Benetro, dans son commentaire de ce passage, rappelle que la société patriarcale du 1er siècle, que dans cette société, pardon, les décisions du chef de famille entraînaient l'adhésion de toute la famille. Alors aussi étrange, décalé et dérangeant que cela puisse nous paraître aujourd'hui, c'était aussi le cas pour la décision de se convertir à la foi chrétienne. Et c'est le fameux « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille » d'Actes 16, 31. Ceci parce que la famille antique, nous dit Samuel Benetro, était un bloc et les enfants dépendaient totalement des parents jusqu'à un âge avancé. Par ailleurs, ajoute-t-il, le contact avec le monde extérieur était limité. Ça n'est plus le cas, du moins dans la civilisation occidentale. Par l'école, la multiplicité des médias, les activités et les rencontres variées, l'enfant subit très tôt d'autres influences que celles du cercle familial. La cohésion n'est plus garantie. Et tout pasteur ne peut être tenu pleinement responsable des faits et gestes de ses enfants dès le stade de l'adolescence. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Samuel Benetro. Je ne le dis pas parce que j'ai un ado moi-même à tenir dans la soumission et à corriger, mais parce que c'est tout à fait exact de dire que le contexte familial d'aujourd'hui n'a plus grand-chose à voir avec celui du 1er siècle. Il était impensable au 1er siècle qu'un enfant puisse ne pas être dans la ligne droite de ses parents. Impensable. Ça aurait été un acte de rébellion extrême. Et ce n'est pas une question théologique, c'est une question culturelle. Parce que du point de vue théologique, nous savons bien que la foi est une affaire personnelle. Si un parent peut être tenu responsable de l'absence de foi de son enfant, alors c'est que le salut n'est plus par grâce. Bien sûr que les parents ont un rôle à jouer, ils ont même le rôle principal après Dieu lui-même, mais ils n'ont pas le pouvoir par leurs seuls efforts d'amener leurs enfants à la foi. Il faut qu'à un moment donné, le Saint-Esprit fasse son œuvre de régénération et ouvre leur esprit à la puissance de la parole de Dieu. Alors j'arrive au bout, et en vrai, vous avez eu là trois prédications en une, parce que ce sont trois thèmes quand même très distincts les uns des autres. Pas facile de lier la botte, donc je ne vais même pas essayer de la lier, mais je vais essayer de vous donner trois moyens, disons, de retenir ce qui a été dit. Premièrement, sois une famille pour ceux qui n'en ont pas. Ça, c'est l'hospitalité. Sois une famille pour ceux qui n'en ont pas. Deuxièmement, à l'heure de mettre en place un responsable, souviens-toi que l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel, lui, regarde au cœur. Eh bien, fais de même, cherche l'attitude avant l'aptitude. Cherche l'attitude avant l'aptitude. Et troisièmement, il n'y a pas que le responsable d'église qui doit bien diriger sa famille. Ça me fait plaisir de le rappeler quand même. Alors, prends ta place si tu l'as délaissée. Nos enfants n'ont pas besoin d'autoritarisme, mais ils ont quand même besoin d'autorité. Ils ont besoin d'un cadre et d'une direction claire. Et j'ai bien entendu, à travers ce texte, qu'il en est de même pour l'église. Alors, si je peux vous demander une dernière chose, la voici. Priez pour moi. Pour que je sache moi aussi être à ma juste place de berger. Je vais prier. Seigneur, nous avons une place à tenir en tant qu'enfants de Dieu. Tu nous appelles à beaucoup de choses. Tu nous appelles à être lumière du monde. Tu nous appelles à ne pas cacher cette lumière sous le boisseau, à être tes témoins. Tu nous appelles à faire des disciples de toutes les nations, en baptisant et en enseignant. Tu nous appelles à être notre juste place, à notre juste place selon l'appel que tu as formulé sur nos vies, Seigneur. Et pour nous tous qui sommes parents, Seigneur, tu nous as appelés à nous occuper de nos enfants, à les diriger, à les éduquer, à leur montrer la voie, à leur montrer l'exemple, Seigneur. Tu nous appelles aussi à savoir leur demander pardon quand nous avons failli parce que nous sommes pécheurs. Seigneur, les uns vis-à-vis des autres, tu nous appelles aussi à l'hospitalité, à faire famille tous ensemble et peut-être plus particulièrement encore pour ceux qui, effectivement, en dehors de l'Église, n'ont pas de famille et peut-être même dans l'Église, n'ont pas de famille, de sang en tout cas. Mais Seigneur, tu as envoyé ton Fils qui a versé son sang pour nous. Alors nous sommes, nous aussi, une famille de sang. Nous sommes unis par le sang du Christ. Et tu nous appelles à nous regarder les uns les autres comme des frères et des sœurs. Seigneur, je te prie pour que vraiment personne ici ne se retrouve à part parce qu'on n'a pas su porter le regard sur lui ou sur elle. Je te prie aussi pour toutes celles et tous ceux qui sont là au milieu de nous et qui peut-être parfois se demandent comment agir, où se trouve leur place, qui peut-être nous regardent encore un peu de l'extérieur parce qu'ils ne savent pas trop comment faire, parce qu'on envoie des signes aussi de communion et de communauté qui les font se sentir peut-être à l'extérieur, Seigneur. Aide-nous d'abord à bien les accueillir, à bien comprendre d'où ils viennent aussi et à bien les accueillir, quelle que soit leur vie, leur passé, leurs propres habitudes. Et puis surtout, Seigneur, qu'ils puissent se sentir libres d'être ce qu'ils sont. Seigneur, tu nous as tous rachetés. Tu es tous venus nous chercher là où nous nous trouvions, exactement là où nous nous trouvions. Et nous étions loin de toi, Seigneur. Nous étions loin de toi. Alors, les gens qui peut-être sont loin de toi, ça nous fait pas peur, Seigneur, parce que toi, tu es auprès d'eux aussi. Tu es auprès d'eux surtout, peut-être même. Seigneur, aide-nous à pas les faire entrer au forceps dans ce qui est quelque chose de l'ordre peut-être de nos habitudes ou de nos traditions même, mais qu'on puisse vraiment écouter ce qu'ils sont complètement, pleinement, et puis toi tu fais ton œuvre dans les cœurs de chacun, parce que ceux qui sont éloignés, Seigneur, tu les rapproches, et c'est ton œuvre, c'est toi qui le fais. Seigneur, nous ne voulons pas être un mur ou un frein pour personne, Seigneur. Nous te remercions pour chacune de ces personnes qui sont là. Nous te prions de les bénir. Tu poses ta main sur eux, Seigneur. Tu prends soin d'eux. Et partout où là, nous ne pouvons pas les rejoindre, toi, tu peux les rejoindre. Et tu le fais. Partout où nous, peut-être, nous avons, des appréhensions ou des a priori, peut-être même des jugements qui peuvent monter dans notre cœur, toi, tu n'as rien de tout ça dans le tien, Seigneur. Toi, tu les accueilles, tu les aimes comme ils sont. Et tu travailles leur cœur pour les amener là où tu es. Seigneur, nous voulons être tes disciples et nous voulons faire de même. Aide-nous à cela. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen.
Amen. Je vais appeler Clé.